There are 274 million French speakers in the world. For France's Emmanuel Macron, speaking French opens doors in an increasingly globalized world. But what many don't realize is that there are more French speakers in Africa than Europe. In 2014, there were 150 million francophones in Africa, but less than 100 million in Europe. There's another 20 million from the Americas and the Caribbean, followed by 2.5 million in the Middle East and Asia. Finally, around 1 million are living in the South Pacific. By 2050, Africa could account for 85% of the francophone world. But according to the International Organization for la Francophonie, those numbers could change depending on how the organization's 54 member states choose to reinforce the language's teaching. With a potential for 700 million speakers, French could become the most widely spoken language in the world. But for now, it ranks fifth worldwide, behind Arabic, English, Spanish, and Mandarin, with 848 million speakers.
CIUT
89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Chelly.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
The views and opinions expressed on the following program are those of the producers and or the persons appearing on the program, and do not necessarily reflect the views and opinions of CIUT FM.
CIUT 89.5 FM, celebrating 35 years as the sound of your city. Proudly student and listener-supported community radio.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Popori Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target, Popori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m., in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pori@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie, mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Popourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans sur CUT 89,5 FM. Popourri Show. Sur votre fréquence, tout au long de l'année. La radio, comme je l'aime. Madame, how would you like your baguette? With butter or marmelade?
Faites-le dans la cuisine, dans le jardin et même sur le balcon. Inscrivez-vous pour accéder à des outils qui simplifient la façon de voter. Faites-le partout et en tout temps. Inscrivez-vous sur la liste des électeurs dès aujourd'hui.
Appel sur l'actualité. Choc et colère après une tuerie raciste dans l'État de New York samedi 14 mai dernier. Au moins 10 morts, en majorité des Afro-Américains. Les autorités dénoncent une nouvelle tuerie à caractère raciste d'un suprémaciste blanc de 18 ans. Des médias américains ont également évoqué un manifeste à caractère raciste diffusé sur Internet. Les Noirs sont-ils en danger? Peu importe où ils se trouvent au Canada. Que font nos conseils scolaires pour sensibiliser les jeunes? Que font nos médias? Qui sont ces franco-ontariens québécois de souche qui appuieraient la théorie du grand remplacement, le complot de l'extrême droite? Popourri Show ouvre l'antenne aux auditeurs. Pour participer à nos émissions, veuillez nous envoyer vos commentaires par courriel popourri@cut.fm. Les Noirs sont-ils en danger au Canada? Nous attendons vos commentaires par courriel popourri@cut.fm. Pour réécouter nos émissions, une seule adresse, popourrichaud.com. Popourri Show 35 ans, toute la diversité sur votre fréquence. Dimanche 22 mai 2022. Bienvenue à Popourri Show sur www.cut.fm, la radio campus de l'Université de Toronto, ou sur Rogers Cable 946. Pour écouter nos émissions, une seule adresse, popourrichaud.com. Et nous sommes des vôtres jusqu'à 13h. L'ingénieur du son DJ Devera. Production animation Eric Kader qui vous accompagne depuis 35 ans. Un immense merci à tous nos abonnés et partenaires qui ont contribué si généreusement à notre collecte de fonds printanier. Et oui, nous avons amassé à ce jour près de 60 000 $. Et j'invite aux auditeurs, auditrices qui n'ont pas encore fait une contribution de visiter immédiatement notre site web www.cut.fm et cliquer sur le bouton « Donate ». Et surtout, n'oubliez pas de mentionner votre émission favori, Popourri Show. Au menu en ce dimanche, les Noirs sont-ils à l'abri des tireurs fascinés par une idéologie de la suprémaciste blanche et de la théorie du grand remplacement? Nous attendons vos commentaires à popourri@cut.fm. Et aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir pour la toute première fois Ariane Burtin, directrice du WE Festival des arts et de la culture pour la petite enfance, au programme du 31 mai au 12 juin. Deux semaines fabuleuses avec plus de 50 spectacles et événements pour les enfants de 0 à 6 ans. Contes, musique, danse, marionnettes en anglais et en français. Et sans parole, les compagnies invitées viennent du monde entier, notamment du Québec avec 4 productions de Toronto, de Vancouver, d'Irlande, d'Allemagne, d'Indonésie et de Corée du Sud. À ne pas manquer dans la deuxième heure. La librairie francophone et Emmanuel Kerad nous invitent aujourd'hui à de belles rencontres de l'île de la Réunion en passant par le Québec et la France. Le Québécois Bertin Leblanc, ancien porte-parole de l'ex-secrétaire général de la francophonie Michael Jean, nous présente son dernier livre, Éléments de langage, cacophonie en francophonie, aux éditions La Boîte à Bulles, qui raconte les coulisses de l'Organisation internationale de la francophonie avec des révélations chocs et sans complaisance pour les chefs d'État francophones. La campagne électorale en Ontario bat son plein et à cette occasion, ONFR Plus organise plusieurs événements en français. On vous donne les détails sur notre site popourishow.com. Les pronostics ont dit vrai. L'Ukraine remporte à l'édition 2022 de l'Eurovision. Malgré la belle prestation du groupe breton, la France termine à la 24e place. Une question se pose. L'Ukraine pourra-t-elle accueillir la 67e édition sur son sol? Quoi de neuf à les cafés du Créfaux? Retrouvez le dernier podcast en ligne. Avortement, quel nom dit et mémoire du pronatalisme roumain. Un sujet d'actualité. Professeur Laura Bisaillon, membre du CREFO, rencontre Madame Lorena Anton, qui est anthropologue sociale, autrefois professeur à l'université de Bucarest et à l'université transylvanien de Brasov en Roumanie. Elle est aujourd'hui chercheuse indépendante. Quoideneuf.ca ou encore, vous retrouverez le podcast sur popourishow.com. Aussi à l'émission, connaissez-vous les finalistes du prix littéraire Trillium en langue française? Une présentation de notre partenaire, les éditions prisedeparole.ca. Les inscriptions pour le camp d'été multi-art 2022 de Sophie Franc ont déjà commencé. Hâtez-vous car les places sont limitées. Justine Gaugois, éducatrice artistique, a hâte d'accueillir vos jeunes du 18 au 29 juillet. Numéro de téléphone 905-714-7333 ou encore le 905-226-5282. Vous retrouverez tous les détails sur notre site web popourishow.com. Société d'Histoire de Toronto vous invite cordialement à sa prochaine conférence à l'aventure des Acadiens aux îles Malouines en compagnie de Bougainville, mercredi 25 mai. Et c'est à 19h à l'Alliance française de Toronto, 24 chemin Spadina. Et une activité qu'il ne faut pas manquer absolument. Et oui, portes ouvertes, Toronto, portes ouvertes du 28 au 29 mai 2022. Et bien sûr, vous retrouverez tout ça sur le site de la Société d'Histoire de Toronto ou sur popourishow.com. Et enfin, de belles découvertes musicales d'un continent à l'autre si on a le temps. Mais pour tout de suite, le magazine Accent des Autres, l'actualité de ces derniers jours vue par des médias francophones publics.
Bonjour et bienvenue. Voici, comme chaque semaine, l'actualité de ces derniers jours vue par les médias francophones publics, la radio-télévision suisse, RFI, Radio-Canada, France Inter et la RTBF. Et on va commencer aujourd'hui par cette menace d'une sécheresse record en France, notamment. Avant même le début de l'été, 14 départements sont déjà soumis à des restrictions d'eau. Les agriculteurs sont inquiets et tirent la sonnette d'alarme, et ils ne sont pas les seuls, Karine Bécard.
Non, il n'y a pas que. Les pompiers s'inquiètent également de l'extrême sécheresse des sols, parce que plus ils sont secs, et bien plus les risques d'incendie sont bien sûr élevés. Les pompiers sont donc, dès à présent, en train de se préparer à devoir faire face à des feux cet été un peu partout, hors catégorie.
Le débat sur l'avortement est relancé aux États-Unis. Ce droit est sérieusement menacé par une prochaine décision de la Cour suprême. Et cette situation, Benoît Audet, elle résonne au Canada.
Oui, et Ottawa n'exclut pas de légiférer pour protéger le droit à l'avortement au pays.
Au Sénégal, à présent, on va parler santé et justice parce qu'un tribunal a rendu son jugement dans l'affaire Astou Sorna, Clémentine Pavlotsky.
Oui, Astou Sorna, c'est cette jeune femme enceinte dont la mort avait ému l'ensemble du pays début avril. Un décès particulièrement douloureux à l'hôpital régional de Louga. Trois sages-femmes ont donc été condamnées, mais les peines prononcées sont loin de satisfaire les proches de la victime.
Le débat sur l'avortement relancé la semaine dernière aux États-Unis. Une fuite dans les médias a révélé que la Cour suprême pourrait invalider un jugement de 1973. C'est un jugement qui accorde aux américaines le droit à l'avortement. Et c'est un débat qui résonne au Canada voisin où l'avortement est légal depuis 1988, depuis qu'un jugement de la plus haute cour a décriminalisé le recours à l'interruption de grossesse. Aujourd'hui, Benoît, le gouvernement de Justin Trudeau veut aller plus loin.
Oui, même s'il est moins vigoureux qu'aux États-Unis, le débat sur l'avortement revient périodiquement dans l'actualité au Canada. Des groupes opposés à l'avortement manifestent chaque année sur la colline du Parlement à Ottawa. Donc, le gouvernement libéral vient d'annoncer de l'argent pour améliorer l'accès à l'avortement et veut même légiférer pour protéger ce droit. On écoute le premier ministre Justin Trudeau.
Nous, on veut comprendre ce qui est, comment on va mieux protéger les droits des femmes pour les années à venir. Je pense que c'est quelque chose sur lesquels la vaste majorité des Canadiens sont alignés.
Voilà, le premier ministre canadien, donc. L'opposition, de son côté, accuse Justin Trudeau de relancer ce débat à des fins partisanes.
Oui, plusieurs députés conservateurs estiment que la question est réglée. Voici le député Pierre Paulus.
Je trouve ça fascinant de voir que c'est Justin Trudeau et les libéraux qui ramènent le débat sur l'avortement, parce que de notre côté, on ne demande rien. Pour nous, la situation, la question était réglée.
Le Parti conservateur est en pleine course à la direction. Une seule des candidates, Leslyn Lewis, se déclare anti-avortement. Au Canada, les sondages démontrent qu'une forte majorité des répondants souhaitent protéger le droit à l'avortement.
Oui, et c'est un droit qui existe par ailleurs en Belgique notamment, mais sous condition et depuis 1990, Sophie.
L'avortement est permis jusqu'à 12 semaines de conception, mais il n'est toujours pas totalement dépénalisé. Ça veut dire qu'une femme et un médecin qui ne respecteraient pas les conditions sont théoriquement encore passibles de poursuites. Depuis des années, des débats se tiennent autour de la dépénalisation totale de l'avortement et autour donc d'un délai plus long qui passerait à 18 semaines de conception, mais aucun accord politique n'a encore été trouvé sur ces terrains-là en Belgique.
Et on notera encore qu'en Suisse, cette fois, Pierron, le droit à l'avortement est régulièrement attaqué.
Un droit récent chez nous, puisqu'il n'est ancré dans la loi que depuis 20 ans. Et c'est vrai, les adversaires de l'IVG mènent depuis une forme de guérilla. Sans viser l'interdiction, ils tentent d'en durcir les conditions. Le peuple a déjà refusé de biffer l'avortement des prestations de l'assurance maladie. Une nouvelle initiative intitulée « La nuit porte-conseil » veut imposer un jour de réflexion avant l'intervention. Une autre veut empêcher tout avortement dès que le fœtus serait viable hors de l'utérus. Le peuple n'a donc pas fini de se prononcer sur le sujet.
Au Sénégal, à présent, les suites d'une affaire qui avait ému tout le pays le mois dernier. La justice vient de condamner 3 sages-femmes après la mort d'une femme enceinte, Clémentine Pavlotsky.
Oui, 3 sages-femmes condamnées mercredi à 6 mois de prison avec sursis. Elles ont été reconnues coupables de non-assistance à personne en danger après le décès, dans d'interminables souffrances, d'Astou Sorna, une jeune femme enceinte qui attendait désespérément une césarienne. 3 autres sages-femmes ont été relaxées. L'affaire remonte au 1er avril, une tragédie qui a bouleversé le pays, suscitant une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Indignation contre les carences du système de santé publique sénégalais. Le sort d'Astou Sorna a aussi provoqué des réactions au plus haut niveau de l'État. Le président Macky Sall lui-même a publié un message de condoléances et demandé que les responsabilités soient déterminées. Le ministre de la Santé a ensuite reconnu mi-avril que le drame aurait pu être évité.
Oui, et pourtant, Clémentine, l'affaire est peut-être encore loin d'être terminée.
Effectivement, certains ne comprennent pas ce jugement. C'est le cas, par exemple, du collectif Patients en danger, qui se bat pour que l'accès à la santé soit équitable au Sénégal, pour que le personnel soit mieux formé. L'une de ses porte-paroles, Nina Pandafal, nous explique pourquoi.
Nous ne comprenons pas la décision qui a été prise. Parce que, quand même, une femme est décédée avec son bébé. Nous sommes déçus. Et pour nous, il est impossible que ça se passe comme ça. Sinon, ça va être de l'impunité et les Sénégalais, les citoyens qui sont confrontés à ce genre de situation, ils risquent de vouloir eux-mêmes régler le problème.
Voilà, comme cette militante, beaucoup demandaient un procès pour l'exemple, à commencer par les proches d'Astou Sorna. Les avocats de la famille ont donc déposé une nouvelle plainte contre les sages-femmes et la gynécologue de l'hôpital, cette fois pour homicide.
L'accent des autres, avec les médias francophones publics.
On va se quitter en Belgique cette semaine où la police judiciaire manque de moyens. Ses responsables parlent de situations catastrophiques et ils sont inquiets pour l'avenir. Ils sont venus le dire aux députés cette semaine, Sophie.
Oui, la police judiciaire fédérale dit manquer de tout face à une criminalité multiple et qui a, elle, d'importants moyens. Trafic de drogue, criminalité financière, le grand banditisme présente, il est vrai aujourd'hui, différents visages, mais impossible de gérer tous les dossiers. Alors, comme l'explique le procureur fédéral, il faut faire des choix.
Par rapport à un phénomène où on a la mafia, où on a la drogue qui s'installe à Bruxelles, où on a des phénomènes de violence avec des règlements de compte, on ne va pas donner la priorité au trafic d'œuvres d'art. Ça, j'espère que tout le monde peut comprendre ça.
Le procureur fédéral belge qui ajoute aussi, et peut-être surtout, que les organisations criminelles ont aujourd'hui totalement changé en raison de la digitalisation. Il faut donc aussi trouver de nouveaux profils au sein même de la police judiciaire.
Quand je commençais ma carrière il y a 20 ans, on venait me dire, on a fait une perquisition, on a trouvé un document derrière l'armoire. Maintenant, c'est pas le cas, c'est plus le cas. Maintenant, on a besoin d'un soutien, on a besoin d'analystes criminels, on a besoin de gens qui savent extraire des données. On doit trouver dans un milliard de communications les éléments de preuve qui nous permettent de monter un dossier et d'arriver à quelque chose qui est crucial. C'est la police du 21e siècle. Hein.
Voilà la police judiciaire du 21e siècle qui, pour ses responsables, a besoin d'un millier d'équivalents temps plein en plus s'il veut être en mesure de mener ses missions à bien.
Sophie Brems pour la RTBF. C'est donc à Bruxelles qu'on va se quitter cette semaine. Merci d'avoir été au rendez-vous de l'Accent des Autres, l'actualité de la semaine vue par les médias francophones publics. On se retrouve bien sûr, si vous le souhaitez, la semaine prochaine à la même heure.
Avec la nouvelle application Apprendre le français avec TV5Monde, apprenez le français où vous voulez, quand vous voulez. 3000 exercices variés et amusants à partir de vidéos directement issues de nos programmes pour améliorer votre compréhension orale du français. Débutant ou confirmé, on vous guide pas à pas avec des tas d'astuces et de conseils. Avec l'appli Apprendre le français avec TV5Monde, le français, c'est simple comme bonjour. Disponible gratuitement sur iOS et Android.
Les nouveautés, les coups de cœur des musiques francophones. En exclusivité sur CUT 89,5 FM. Notre travail prend tout son sens grâce aux artistes, des passionnés, communicateurs d'émotions, peignant des tables sonores qui nous font voyager. À nous de les exposer, de les faire rayonner. Ce dimanche, j'ai le bonheur de vous présenter Les démons dans ma chambre, une chanson qui figure sur la liste des meilleures chansons francophones de l'heure sur toutes les radios de Montréal et du Québec. Le démon dans ma chambre du jeune Québécois William Gravel, auteur, compositeur, interprète, qui nous présente son nouvel extrait radio. Démon dans ma chambre, une chanson démontrant l'injustice d'une rupture amoureuse, ainsi que l'angoisse que celle-ci peut apporter au cœur brisé. Dans une sonorité pop, William nous fait découvrir son univers à travers ce nouveau titre. Ayant baigné dans la musique depuis son plus jeune âge, William Gravel, 19 ans, a toujours eu une forte passion pour l'art de la chanson. Les démons dans ma chambre, écrit pour tous les cœurs brisés, incapables de passer à autre chose. Les nouveautés des musiques francophones d'ici et d'ailleurs sur CUT 89,5 FM. Popourri Show, 35 ans, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde. Allez tout de suite, Démon dans ma chambre par William Gravel.
Démon dans ma chambre qui me hante, car depuis notre dernier temps, je me sens seul. Et même quand je pars en vacances, voilà chez nous, va la France, c'est toujours là dans ma tête quand je pense. Je suis pas bon dans les autres fois, et c'est tant mieux pour toi. J'ai jamais eu autant d'espoir et douleur à la fois. Oh, j'ai peur d'être un ennemi, de t'aimer toute ma vie. J'ai peur de rester seul autour de toi. Oh, j'ai peur de manquer de mots, de garder ton numéro et t'appeler quand j'ai trop besoin de toi. J'ai pas les démons dans ma chambre qui me hantent. Quand j'ai fini notre dernière danse, je me sens seul. Et même quand je pars en vacances, voilà chez nous, à la France, c'est toujours là dans ma tête quand je pense. J'ai pas les démons dans ma chambre qui me hantent. Quand j'ai fini notre dernière danse, je me sens seul. Et même quand je pars en vacances, voilà chez nous, à la France, c'est toujours là dans ma tête quand je pense. Je verrai toujours dans mes rêves, malgré le temps qui passe. Ce que j'ai demandé de l'aide, ce jeu que ça me dépasse. Oh, j'ai peur d'être un ennemi, de t'aimer toute ma vie. J'ai peur de rester seul autour de toi. Oh, j'ai peur de manquer de mots, de garder ton numéro et t'appeler quand j'ai trop besoin de toi. J'ai peur des démons dans ma chambre qui me hantent. Quand il y a très rien d'intense, je me sens seul. Et même quand je pars en vacances, voilà chez nous à la France, c'est toujours là dans ma tête quand je pense. J'ai pas les démons dans ma chambre qui me hantent. Car depuis notre dernière danse, je me sens seul. Et même quand je pars en vacances, voilà chez nous à la France, c'est toujours là dans ma tête quand je pense. Et même si je parle à tous les sauts.
Cine Franco, 25 ans, et ça se fête. Et tout au long de l'année, en ligne ou en salle, restez branchés sur CUT 89,5 FM pour découvrir les rendez-vous et les films de Cine Franco, reflétant la diversité des cultures francophones. Cinefranco.com, popourishow.com, 25 ans, ça se fête. Quoi de neuf? Les cafés du Créfaux. En partenariat avec Popourri Show et CUT 89,5 FM. Comment évoluent nos modes de vie et nos sociétés dans le monde? Comment se porte le monde de l'éducation, les francophonies et la diversité? Bienvenue au podcast Quoi de neuf à les cafés du Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, et la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto et l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario. Le CREFO, un centre de recherche interdisciplinaire qui pose un regard critique sur les pratiques éducatives, sociales et langagières de la francophonie en Ontario, au Canada et dans le monde. Abonnez-vous au podcast Quoi de neuf à les cafés du CREFO et c'est gratuit. Vous pouvez y avoir accès où que vous soyez dans le monde. Et cette troisième saison est animée par professeur Laura Bisaillon et tourne autour du thème de la production, de la diffusion des connaissances sur les mobilités, les francophonies, la minorisation, le corps et l'État dans divers contextes du monde. Quoideneuf.ca. Abonnez-vous maintenant.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts.
Et oui, le moment tant attendu de la part de tant de fans au Canada et au Québec a bientôt une réalité. Stromae, de retour au Québec à l'automne 2022. Depuis le lancement de son troisième album Multitude au mois de mars, l'artiste belge d'un père tué lors du génocide de Rwanda présentera deux spectacles au Centre Bell de Montréal les 25 et 26 novembre et le 11 décembre au Centre Vidéotron Montréal. Tirage sort de deux paires de billets de concert et billets de train via rail et hôtel pour les gagnants. Allez, inscrivez-vous à nos infolettres et courez la chance de gagner des billets des prochains concerts de Stromae. Et afin de rester à l'affût et ne rien manquer des nouvelles annonces de nos partenaires, programmations, festivals, des nouveaux concours exclusifs, inscrivez-vous immédiatement à notre infolettre popourri@cut.fm. Stromae, meilleur artiste belge de la planète, gagnant de plusieurs prix. Et il est passé chez nous à plusieurs reprises. Il nous revient après un long silence. Allez, participez en grand nombre. Concours Stromae. Bonne chance.
CIUT 89.5 FM. The sound of your city. Stream us anytime at www.ciut.fm.
Eh oui, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que Sophie France Solidarité des Femmes et Familles Interconnectées Francophones du Niagara, un organisme communautaire à but non lucratif, planifie, développe, organise et réalise des projets qui répondent aux besoins réels de la communauté immigrante francophone du Niagara. Sophie France est aussi un festival annuel haut en couleur avec Festive Ben, un salon du livre, des ateliers, des projets ambitieux et novateurs.
Sophie Franck, 15 ans déjà, ça se fête. De la culture, de l'art et du patrimoine pour, par et avec les immigrants et les jeunes francophones du Niagara et de Welland. Découvrez les projets de Sophie Franck en cliquant sur sophiefranc.org ou visitez notre site web popourichaud.com. Où que vous soyez, si vous songez un jour vous installer dans la région du Niagara, Sophie Franck vous accompagnera dans votre processus d'intégration en vous offrant des services ciblés dans le domaine social, économique, éducatif et culturel. Pour une intégration réussie, une seule adresse, sophiefranc.org. Sophie Franck, un organisme qui a déjà fait ses preuves. Ensemble, faisons le changement. Pau Pourri Chaud, 35 ans déjà, fier partenaire de Sophie Franck.
CIUTFM, la première radio de Toronto, élue par le Now Magazine en 2021. Toute l'équipe de la radio vous remercie de votre fidélité.
Pau Pourri Chaud et CUTFM fêtent leur 35e anniversaire. Pau Pourri Chaud, la seule émission en langue française, a renouvelé sa convention de partenariat avec Radio France Internationale. 2022 s'annonce une année riche en événements et en surprises.
Eurovision 2022.
Eh oui, le grand concours Eurovision 2022 s'est tenu à Turin, en Italie. Je dis bien le bonjour à ma sœur Corinne et ma nièce, Émilie. Eh oui, c'était Fulan, chanson écrite en breton que nous venons d'entendre, chanson qui parle de l'émancipation féminine. Ce groupe est né il y a quelques mois à peine de la fusion entre deux groupes. Alvan d'un côté, fan de musique électronique, et Ahez, un groupe ou un trio de chanteuses bretonnes. Un jour d'été 2021, dans un bar de Rennes, je rencontre Marine. On imagine un morceau et en trois jours, c'était enregistré. Mon manager envoie le morceau au casting de l'Eurovision France et c'était parti. Ils ont mis le feu au dernier concours de l'Eurovision samedi dernier. Le groupe breton Alvan et Ahez a surpris le public avec une prestation singulière à l'occasion de cette nouvelle édition du concours de l'Eurovision organisé samedi 14 mai dernier à Turin. Fulen, entièrement chanté en breton, les artistes aux influences celtiques et électro ont su rendre hommage à leur façon à la musique traditionnelle de leur région. La France, malheureusement, a terminé à la 24e place.
Et conformément au pronostic, le groupe ukrainien Kalush Orchestra a remporté le concours Eurovision de la chanson édition 2022 avec sa fusion de hip-hop et de musique traditionnelle. S'il vous plaît, aidez l'Ukraine et Mariupol, a lancé sur scène le leader du groupe. Alors que la guerre en Ukraine secoue la planète et le continent européen, en particulier les bookmakers, ont eu le nez creux en pariant sur une victoire du groupe de rap folklorique ukrainien Kalush Orchestra, qui s'est imposé avec sa berceuse Stefania, hommage à toutes les mères ukrainiennes. Avant de passer à un extrait, je vous rappelle que nous recevrons dans la deuxième heure Ariane Burtin, directrice du festival Oui Festival des Arts et de la Culture pour la Petite Enfance, au programme du 31 mai au 12 juin, à ne pas rater, deux semaines fabuleuses avec plus de 50 spectacles, événements pour les enfants. Découvrez toute la programmation sur ouifestival.ca ou encore popourichaud.com. Et juste après, la chanson du groupe ukrainien, la librairie francophone et Emmanuel Kerad de France Inter nous invite à la séquence spéciale à l'île de la Réunion. Et oui, c'était la semaine dernière. Le Québécois Bertin Leblanc, ancien porte-parole de l'ex-secrétaire général de la francophonie Michael Jean, au rendez-vous pour une bande dessinée passionnante, éléments de langage. Cacophonie en francophonie, aux éditions La Boîte à Bulles, qui raconte les coulisses de l'Organisation internationale de la francophonie avec des révélations choc et sans complaisance pour le chef d'État francophone. Voici Kalush Orchestra interprétant Stefania, l'Ukraine qui a remporté la victoire de l'Eurovision 2022 pour la troisième fois de son histoire, s'imposant largement face au Royaume-Uni, l'autre grand favori des arrivées, deuxième place, et à l'Espagne, troisième place. Si l'Ukraine a obtenu un résultat moyen auprès du jury, avec un total de 192 points, le pays a été propulsé à la première place par le public, avec un score sans précédent de 439 points. Un résultat qui témoigne du soutien dont bénéficie le pays en Europe dans sa guerre contre la Russie. Le concours de chant commenté par Laurence Boccoloni et Stéphane Bern sur France 2 a rassemblé, tenez-vous bien, près de 3,18 millions de téléspectateurs, un record d'audience. Place à Kalush Orchestra de l'Ukraine, interprétant Stefania. Eh oui, et la musique adoucit la musique, adoucissez cette guerre. Popourichaud, 35 ans. Non plus jamais la guerre.
Oh, please help Ukraine, Mariupol. Help Azovstal right now.
Les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio Télévision Suisse,
Radio Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. C'est une île intense à tous les sens du terme. Un lieu au croisement des cultures européennes, africaines et asiatiques. Une terre posée sur l'immensité de l'océan Indien et le territoire français le plus austral. L'île de la Réunion passionne, fascine et émeut aussi pour sa capacité au vivre ensemble. Toutes origines, toutes religions mélangées. C'est dans l'ADN de cette île pas comme les autres qui incarne à elle seule l'esprit de la francophonie. Nous y sommes cette semaine. Voici le sommaire de cette émission.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Au programme aujourd'hui, une séquence spéciale grand format à La Réunion avec une rencontre inédite sur le thème de l'éducation et de la condition des femmes. La Camerounaise Jailia Madou Amal, prix Goncourt des lycéens 2020, et la Réunionnaise Gaëlle Bellem, publiée chez Gallimard, se rencontrent. Nous serons au bord du lagon de Saint-Pierre pour vous faire vivre ce moment. Avant cela, nous recevrons le Québécois Bertin Leblanc, ancien porte-parole de l'ex-secrétaire général de la francophonie Michaël Jean. Il raconte dans une BD passionnante les coulisses de l'OIF avec des révélations choc sans complaisance pour les chefs d'État francophones. Et puis nous partirons en mer avec Yann Kefelec dans notre séquence Livre de poche.
Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens.
Et bonjour Bertin Leblanc.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez été porte-parole de la secrétaire générale de la francophonie à l'OIF, Michaël Jean, qui a été remplacé avec fracas en 2018 lors du sommet de la francophonie à Erevan, en Arménie. Nous étions d'ailleurs sur place à ce moment-là. On s'était vu d'ailleurs et rien ne va. Aznavour vient de mourir et toute l'Arménie est en deuil au moment même où s'ouvre le sommet. Et vous, vous êtes partagé parce que vous allez tous être débarqués, on peut dire ça.
Exactement. C'est ce qu'on voyait venir depuis l'automne, en fait. Hein. Grosso modo, le temps s'était couvert pour l'équipe de Michaël Jean, et Michaël Jean en particulier. Et donc, Erevan était le dernier chapitre de cette aventure.
Alors, cette chanson d'Aznavour que l'on vient d'entendre et que vous citez dans votre roman graphique, cette grosse bande dessinée, elle a tout son sens. C'est une comédie absolue. Vous prenez le poste au pire moment, vous, parce que Michaël Jean, au moment où vous arrivez, est ciblé par un journal au Québec, le Journal de Montréal, qui s'intéresse aux frais de rénovation d'un appartement de fonction.
Exactement. En fait, j'ai fait de la com de crise pendant 2 ans.
Oui.
Je croyais prendre un poste qui était plutôt... qui devait bien se passer. Hein. On était dans une période où Michaël Jean était quand même en ascension politique. La francophonie avait beaucoup de sens. Enfin, pour un journaliste comme moi, je me disais, voilà, on va pouvoir raconter cette belle histoire. J'avais beaucoup d'ambition, évidemment. Ça se passe relativement vite. Et soudainement, en fait, dès mes premières semaines, je suis interpellé par un journaliste du Journal de Montréal qui voulait avoir un peu plus de détails sur les frais de rénovation de l'appartement de fonction réservé au secrétaire général.
Voilà, 350 000 euros. C'est ça? De rénovation?
Oui. Mais qui n'était pas, et on s'est battu pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire presque 2 ans pour rappeler, et on doit encore le rappeler aujourd'hui, que ce n'est pas l'appartement de Michaël Jean, c'est un appartement qui avait été prêté par le gouvernement du Canada, dont l'organisation avait décidé de se porter acquéreur pour faire un outil diplomatique, comme ça se fait, je dirais, dans toutes les diplomaties classiques. L'ambition de Michaël Jean, c'était de faire de la francophonie, une unité diplomatique très active, et donc une résidence officielle.
D'accord, mais ça justifie 350 000 euros de frais, ça?
Ma foi, je peux pas vous dire. Moi, je suis pas du tout dans les travaux. J'ai rénové des appartements à Paris. Vous connaissez les prix de l'immobilier à Paris. C'est ni Michaël Jean ni l'administrateur qui ont décidé du prix.
C'est un petit peu ambigu, mais c'est vrai que c'est le déferlement médiatique. Hein. Dès que vous posez les pieds en fait au Québec avec toute la délégation, et ça vous empêche de travailler, ça vous empêche de faire passer les messages prévus.
Et l'administrateur Adama Wan de l'époque, toujours très calme, lui très philosophe, répète en boucle « ce n'est pas du journalisme ça ». Parce que c'est vrai qu'on y va fort quand même.
On y va très fort. En fait, si vous voulez, quand j'ai pris ce poste, moi je suis d'abord et avant tout un journaliste. Donc j'ai réussi à convaincre l'administrateur, Monsieur Wan, de jouer la transparence. Et en fait, ce qui est pas très fréquent en France. Et donc, on a révélé la plupart des...
Ouais, c'est vrai, vous intervenez tout de suite. Ouais.
Et en fait, on s'est pris dans la figure un déferlement vraiment très, très violent et une incompréhension totale. Et même si on apportait des explications sur l'objectif de cette acquisition et de ces travaux, qui était de réduire les coûts, en fait, qui étaient associés à l'hébergement du secrétaire général, rien n'y faisait, en fait. Une fois que le déferlement est commencé, c'est un peu ce que j'ai voulu.
Et après, alors, ça va plus loin, parce qu'on parle d'un chauffeur aussi pour son mari. Il y a une histoire de piano aussi qu'elle a fait installer de 10 ou 15 000 euros. Peut-être qu'il y a eu une erreur de communication quand même, parce que vous auriez pu dire à ce moment-là, effectivement, 350 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Et c'est vrai qu'au Canada, au Québec, on ne plaisante pas avec les finances publiques et avec l'argent du contribuable. C'est ça qui vous a plombé quelque part.
Ça a été peut-être une erreur de communication d'être transparent. J'ai envie qu'on réfléchisse à cette question-là. Parce qu'objectivement, on investissait pour réduire les coûts de fonctionnement de l'organisation. Et ça, on n'a pas réussi à l'expliquer. Mais j'ai envie de dire, les gens n'avaient pas envie qu'on l'explique. À l'origine, on nous avait dit que c'était pour défendre le contribuable canadien. Mais je pense qu'il y avait autre chose. Madame Jean a eu des fonctions pour défendre le fédéralisme canadien. Et d'un point de vue...
Elle était
gouverneure générale du Canada, donc chef d'État. Et pour les nationalistes québécois, on avait pris cette nomination un peu comme une traîtrise parce qu'on l'a longtemps associée au mouvement indépendantiste parce qu'elle était journaliste à Radio-Canada et souvent les journalistes de Radio-Canada
sont parfaits.
Sont parfaits, exactement.
Bon, c'est un véritable panier de crabes, hein. Bertin Leblanc, le pire arrive et commence lorsque le président français Emmanuel Macron est élu en 2017. Le 31 juillet 2017, elle est reçue à l'Élysée. Le rendez-vous a été compliqué à obtenir, dites-vous. L'échange se passe pourtant très bien, mais ce jour-là, dès qu'elle quitte le perron de l'Élysée, la décision est prise de la remplacer.
Semble-t-il. J'ai pas de confirmation, évidemment, les conseillers Afrique de l'Élysée ne m'ont pas confirmé directement la chose, mais c'est ce qu'on a senti très tôt. En fait, quelques semaines plus tard, on s'apercevait que la présidence cherchait un nouveau candidat. Et les noms commençaient à circuler, les rumeurs, etc. Donc, on s'est dit, il y a quelque chose. Et ce qui était assez étonnant, c'est, moi j'étais en vacances à ce moment-là, et j'ai demandé à tous les interlocuteurs qui étaient autour de la table, de notre côté en tout cas, et tout le monde était convaincu que le rendez-vous s'était très bien passé.
Bon, on va laisser la place à nos libraires, à Bertin Leblanc, pour cette bande dessinée, j'allais dire plutôt roman graphique, hein, parce que vraiment c'est très dense, éléments de langage, cacophonie en francophonie, à la boîte à bulles. On va commencer avec la Belgique. Tiens, Nathalie Clairin.
Oui, Emmanuel. Bon, bah, écoutez, moi je me suis rendu compte très vite que je débarquais dans un sujet pour le moins délicat. Et quand la politique vient contrecarrer les idéaux, c'est effectivement mortifère. Ceci dit, Bertin Leblanc, ben, un grand merci pour cette BD. Vous y avez, je trouve, conservé bienveillance et humour, tant par la douceur du dessin que par le côté très zen, j'ai trouvé, de votre personnage qui a comme ça su traverser les tempêtes avec sans aucun doute la chose la plus importante, la dignité.
La France, Sophie Todescato.
Ah, moi, ça m'a passionné. C'est vrai qu'ici, à la librairie francophone, la francophonie nous intéresse dans sa dimension culturelle positive. Et c'est donc très passionnant de voir qu'elle peut être aussi un instrument politique au cœur d'enjeux et de grandes manœuvres diplomatiques qui sont souvent pas très reluisantes, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, elles sont très bien racontées, c'est un vrai western, et très bien racontées à la fois par le scénario et par le dessin.
Ouais, et vous êtes sans concession, Bertin Leblanc, dans ce livre. Vous décrivez un président français qui ne porte pas d'intérêt à la francophonie, ce qui est faux. Hein. Bertin Leblanc, c'est une interprétation de votre part, parce que alors on peut comprendre, hein, parce que vous avez été la cible de l'Élysée, hein, jusqu'au sommet des Révanes, on va y venir aussi, mais il y a cette phrase clé qu'ils vont porter, et finalement, elle est difficile à contredire, cette phrase, parce que même vous, hein, vous dites, comment on peut lutter finalement contre cet argument? Ils disent, l'avenir de la francophonie se trouve en Afrique, c'est donc normal que l'OIF soit piloté par une Africaine.
Oui, ce à quoi Michael Jean répondait brillamment, je suis quand même pas tombé d'un arbre.
Oui, c'est vrai qu'elle dit ça.
Et franchement, elle a ses origines en Haïti, on connaît tous l'histoire de l'esclavage. Enfin, elle était triplement, voire quadruplement légitime, parce qu'elle avait
La nationalité canadienne.
Elle était une synthèse absolument parfaite, et très objectivement, moi je l'ai vu interpeller des chefs d'État africains, comme personne d'autre pourrait le faire, parce qu'elle avait cette triple identité haïtienne, canadienne, française, c'est une polyglotte. Donc ouais, elle avait cette franchise qui était absolument extraordinaire. Et c'est dommage qu'on se prive de ce talent.
Allez, la Suisse, Claire Renaud, qu'en pensez-vous?
Alors moi j'ai trouvé que c'était une BD qui dépeignait de manière absolument magistrale le monde terrible de la politique, ces alliances par pur intérêt entre pays et surtout l'humanité qui passe bien après. Alors je l'ai lu moi aussi comme en polar, en espérant évidemment une autre fin. Les dessins qui les accompagnent sont vraiment super, j'ai trouvé. Mmh. Et c'est une BD vraiment que je recommande, vous l'aurez compris.
Oui, Paul Gros qui est au dessin, magnifique. Le Canada, alors tiens, Josiane Letourneau, vous connaissez bien le sujet. Qu'avez-vous pensé d'éléments de langage?
Je me sens tout à coup très, très visée par cette histoire. En fait, drôlement, quand j'ai terminé ce livre-là, c'est une vieille expression que j'ai souvent entendue ici qui me semblait tout indiquer pour la résumer. En fait, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, qui veut dire, en gros, la nature humaine nous réserve parfois de bien mauvaises surprises. Et à l'instar de mes collègues, je dois dire que c'est un livre qui m'a absolument passionnée, parce qu'au-delà de la réalité et de la notion de vérité inhérente au récit, vous nous livrez une histoire admirablement bien racontée, avec un point de vue de l'intérieur qui nous donne accès à quelque chose à la fois précieux, fascinant, mais qui fait un bilan, il faut le dire, du monde politique excessivement déprimant.
C'est vrai que c'est déprimant quand on a fini cette bande dessinée parce que Michael Jean croit être soutenu par de nombreux chefs d'État. Mais c'est la désillusion. Partout où elle ira, on lui mentira en manœuvrant dans son dos pour la débarquer ensuite. Même son ami, le premier ministre du petit État du Luxembourg, la lâche, tous un par un, jusqu'à Justin Trudeau. Et là, vous dites, comment un pays peut-il ne pas soutenir sa propre candidate?
En fait, c'est une phrase qu'on m'a beaucoup servi à Erevan. Tous mes collègues africains que je croisais, que j'avais fréquenté depuis 2 ans, me disaient, et surtout les Africains, parce qu'il y a cette notion d'appartenance à une communauté, et ils disaient, mais comment le Canada peut abandonner son propre concitoyen dans un poste qui, certes, c'est pas le secrétariat général des Nations Unies, mais c'est un poste quand même stratégique. Ouais. Pour la diplomatie canadienne, ça lui donnait quand même une vitrine, une opportunité pour communiquer. Par exemple, on l'a beaucoup fait sur le Mali. Je le raconte un peu lors d'un entretien qu'on avait avec le Premier ministre canadien. Donc, je pense que le Canada, si on fait le bilan, parce qu'il y a eu des échanges, évidemment, le Canada pensait obtenir l'appui des gouvernements africains sur un siège qui convoitait aux Nations Unies. Ils ne l'ont pas eu. Donc, ils n'ont pas eu leur siège. Ensuite, ils ont perdu le poste qui est quand même très visible de secrétaire général de la francophonie. Donc, j'ai envie de dire, c'est un coup assez raté pour la diplomatie canadienne, qui est très décriée. Par ailleurs, on avait beaucoup d'attentes par rapport au gouvernement Trudeau. Et enfin, de façon générale, au Canada, on est assez déçus, en fait, de la politique étrangère du Canada pour l'instant.
Quel est le problème de nommer Louise Mushikiwabo membre du gouvernement au Rwanda? Quel est le problème pour vous? Vous parlez des droits de l'homme, par exemple.
Oui, bah forcément. Je veux dire, on peut pas. En fait, on ne peut pas prendre la direction d'une organisation dont le fondement est quand même basé sur les droits humains, alors qu'on vient d'un État qui ne l'a pas respecté et qui ne le respecte pas. On va pas se mentir, il n'y a pas de liberté de presse, il n'y a pas de liberté de parole au Rwanda aujourd'hui. Je sais que c'est un success story, on en parle comme un Singapour de l'Afrique de l'Est. Néanmoins, dans le signal que ça envoie, c'est gênant, c'est embarrassant. Et j'ai longtemps dit aux journalistes canadiens, je suis un ancien de Radio-Canada, donc j'ai longtemps parlé à des journalistes de Radio-Canada en leur disant, mais certes, on peut s'inquiéter, on peut s'interroger sur les dépenses, mais bon Dieu, essayez de considérer aussi le bilan droits humains et liberté individuelle de ce gouvernement et de la candidate. Donc c'était la ligne.
Elle s'explique, hein, Louise Mushikiwabo, elle s'est exprimée dans la librairie francophone. D'ailleurs, on peut retrouver en balado-diffusion ou en podcast cette émission-là. Il y a une chose qui m'interpelle, Bertin Leblanc. Comment Michael Jean, qui tombe des nues, hein, quand elle apprend que c'est Louise Mushikiwabo qui a le poste, elle la connaît bien, elle la connaît très très bien, comment peut-elle dire que c'est une amie intime, comme sa sœur, je cite, si Louise Mushikiwabo est complice, selon vous, à ce point du non-respect des droits de l'homme? Comment Michael Jean peut-elle dire que c'est son amie de 15 ans, c'est ce qu'il y a dans le livre, si sa nomination est une catastrophe pour l'avenir de la francophonie?
C'est toute l'ambiguïté, en fait, de ce genre de poste. Je pense que Madame Mushikiwabo était à la tête de la diplomatie rwandaise. La stratégie globale, en fait, de toutes les organisations, de toutes les diplomaties et de la plupart des gouvernements, c'est de tendre la main, d'essayer de faire un passage pour que les choses s'améliorent.
D'accord, mais elle dit que c'est son amie de 15 ans, comme
elle
sa sœur.
Elles se connaissent.
Elle devrait être déçue parce que c'est pas elle, mais ravie quand même que ce soit elle qui prenne le relais. Sauf que c'est pas le cas du tout. C'est un vrai combat.
C'est une vraie surprise.
Oui,
c'est,
ça d'accord, c'est clair. Ça on peut comprendre.
C'est clair. La déception était multiple dans la mesure où, je pense, elle croyait que c'était une amie. On lui a dit à plusieurs reprises en politique, et Jean-Louis, le directeur de cabinet, lui dit souvent, il n'y a pas d'amis en politique, chère Madame Jean. Je pense que Michaël Jean a une très jolie naïveté par rapport à la vie et par rapport aux gens. Elle croit aux gens, elle croit aux individus, elle croit aux idées. Elle s'est battue jusqu'au bout pour ça.
C'est
dans ce sens-là que la déception était difficile, plus un bilan qui était plutôt positif.
Bon, au sommet de la francophonie d'Erevan, c'est la fin de l'histoire. Michaël Jean monte à la tribune, digne, après avoir été combative jusqu'au bout, s'opposant ouvertement à son ancien soutien Justin Trudeau. Elle arrive et fait un discours que personne n'attendait, loin, très loin de la diplomatie habituelle.
Sommes-nous prêts à accepter que la démocratie, les droits et les libertés soient réduits à de simples mots, que l'on vide de leur sens au nom de la réelle politique, de petits arrangements entre États ou d'intérêts particuliers, alors que cette aspiration légitime à plus de liberté, plus de justice, plus de dignité, plus d'égalité est une aspiration universelle. Une organisation qui ruse avec les valeurs et les principes est déjà une organisation moribonde.
Voilà un extrait de son discours à Erevan au sommet. Notre réaction, Bertin Leblanc.
Bah, toujours aussi ému en fait. Ouais. Le discours, on l'a découvert avec l'audience ce matin-là. On avait l'habitude d'avoir les discours un peu avant, mais là, Michaël Jean a peaufiné jusqu'à la dernière minute. Les nuits étaient très 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 courtes à Erevan et elle l'a écrit dans la nuit. Donc beaucoup d'émotions et quelque part, j'étais fier de l'accompagner parce qu'elle s'est battue pour des idées jusqu'au bout.
Bon, il y a plein de choses dans ce livre, éléments de langage, cacophonie en francophonie. Lisez-le, c'est notre coup de cœur. Les dessins sont signés Paul Gros, c'est magnifique. Et le texte, donc, Bertin Leblanc. Merci beaucoup, monsieur Leblanc. La boîte à bulles, hein, c'est votre éditeur. Merci à vous.
Merci à vous.
Avant de conclure, on écoute le son de l'outre-mer avec la chanteuse réunionnaise Christine Salem.
Tiens beau, tiens beau à l'effort. 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 Tiens beau, tiens beau à l'effort.
Si mon tel n'est pas si la terre pourra mettre son vide en malheur, comme la peau d'un aligaya à l'amour, pour vivre un bonheur. Si mon tel n'a pas si la terre pourra mettre son vide en malheur, comme la peau d'un aligaya à l'amour, pour vivre un bonheur.
Tiens beau,
tiens beau
à l'effort.
Tiens beau,
tiens beau à l'effort.
Tiens beau,
tiens beau à l'effort.
Tiens beau,
tiens beau à l'effort.
Tiens beau,
tiens beau à l'effort.
Tiens beau,
tiens beau à l'effort.
Tiens beau,
tiens beau à l'effort.
C'était un extrait de Tiambo, interprété par la réunionnaise Christine Salem. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, David Le Prince avec Pierre-Yves de Rolin. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère de France Inter et les équipes de la RTS, de la RTBF et de Radio-Canada. Thierry Dupin, la prog musicale. Le grand voyage continue la semaine prochaine. Nous serons avec Anthony Delon qui sera sur notre plateau, entre autres. Merci pour votre fidélité. Bon week-end et bonne semaine.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you Democracy Now! With Amy Goodman, Monday to Friday, 10 to 11 a.m.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
CIUT 89.5 FM, celebrating 35 years as the sound of your city.
Appel sur l'actualité.
Choc et colère après une tuerie raciste dans l'État de New York samedi 14 mai dernier. Au moins 10 morts, en majorité des Afro-Américains. Les autorités dénonçant une nouvelle tuerie à caractère raciste d'un suprémaciste blanc de 18 ans. Des médias américains ont également évoqué un manifeste à caractère raciste diffusé sur Internet. Les Noirs sont-ils en danger? Peu importe où ils se trouvent au Canada. Que font nos conseils scolaires pour sensibiliser les jeunes? Que font nos médias? Qui sont ces franco-ontariens québécois de souche qui appuieraient la théorie du grand remplacement, le complot de l'extrême droite? Popourri Show ouvre l'antenne aux auditeurs. Pour participer à nos émissions, veuillez nous envoyer vos commentaires par courriel popourri@cut.fm. Les Noirs sont-ils en danger au Canada? Nous attendons vos commentaires par courriel popourri@cut.fm. Pour réécouter nos émissions, une seule adresse, popourrichaud.com. Popourri Show 35 ans, toute la diversité sur votre fréquence.
Organisé par le peuple, pour le peuple. CUT 89,5 FM est le son de votre ville. Montrez votre soutien en faisant un don en ligne sur cut.fm afin de nous garder sur les ondes.
RFI, la radio mondiale.
Il y a ce que vous écoutez sur la radio mondiale et il y a ce que vous écoutez ailleurs mais qui passe aussi par RFI. Car sur les 5 continents, plus de 600 radios programment des émissions ou des musiques réalisées, concoctées, sélectionnées par l'équipe de la production musicale. Il s'agit en fait d'un formidable courant d'échange entre RFI et ses radios partenaires. C'est tel groupe angolais dont la cassette nous est envoyée par Radio Luanda et dont les meilleurs extraits vont repartir via RFI vers le Chili, le Vietnam, les États-Unis. C'est aussi cet invraisemblable joueur de vielle que nous envoie Radio France Puy-de-Dôme et que l'on va écouter à Lima, Jakarta ou Kampala. Chaque mois, 8 programmes musicaux sont proposés aux radios du monde entier. Beaucoup de chansons françaises, bien sûr, mais aussi un hit parade européen, une sélection de musique tropicale, du jazz, du classique, de la musique traditionnelle et parfois de la salsa.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
Cette année, Ciné Franco célèbre ses 25 ans. Le cinéma francophone local, national, international et ses artisans sont au cœur de nombreuses activités menées au long de l'année par Ciné Franco. Parmi les rendez-vous les plus populaires, le Festival Grand Public, le plus important festival de films francophones du Canada anglophone. Il se compose d'une quarantaine de films provenant de divers pays, tels que la France, la Belgique, la Suisse, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, et rassemble chaque année des milliers de passionnés. Le programme jeunesse exclusivement dédié aux élèves et à leurs enseignants. La fête du cinéma québécois contemporain grâce au partenariat avec la tournée Québec Cinéma. Et je vous rappelle que tous les films sont sous-titrés, une occasion exceptionnelle pour se familiariser à la langue française et les cultures francophones. Ciné Franco entretient une étroite collaboration avec les acteurs locaux de la francophonie. Il est également très présent sur les médias sociaux, particulièrement sur Facebook et Twitter, pour permettre à tous ses fans de rester en lien avec l'actualité cinématographique francophone. Ciné Franco, 25 ans, ça se fête tout au long de l'année en ligne et en salle. Restez branchés à CUT 89,5 FM pour découvrir les rendez-vous et les films de Ciné Franco, reflétant la diversité des cultures francophones. Ciné Franco est le plus important festival international de films francophones du Canada, fondé en 1997 par Marcel Lynn et devenu l'organisme phare du 7e art qui relie un modèle de pratique artistique au sein de la francophonie. Pour tout renseignement sur Cinéfranco, consultez le site web au cinéfranco.com ou par courriel info@cinéfranco.com. Popourri Show, CUT 89,5 FM, 35 ans déjà. Cinéfranco, 25 ans pour l'amour du cinéma. Et oui, nous venons de recevoir un message de Marceline, la fondatrice de Cinéfranco, à qui nous disons bien le bonjour. Alors, Cinéfranco est fier de co-présenter avec le festival Inside Out le film La Fracture, 13e long métrage de Catherine Corsini, qui ausculte la société française en pleine crise des Gilets jaunes. Vous vous souvenez ce mouvement qui avait causé beaucoup de manifestations un peu partout en France? Eh oui, La Fracture, une comédie sociale, un dialogue tour à tour drôle, tendu, qui nous plonge dans le stress des urgences. Deux paires de billets, je dis bien deux paires de billets disponibles pour les membres de Popourri Show, gracieuseté de Cinéfranco. Rendez-vous lundi 30 mai pour la projection du film La Fracture de Catherine Corsini, un film d'une énergie inouïe, un film impressionnant, drôle et intense, un récit politique puissant. Deux paires de billets pour les auditeurs de Popourri Show, écrivez-nous immédiatement à popourri@cut.fm. Bonne chance, Cinéfranco, 25 ans. Pour l'amour du cinéma. Et puis, mois de juin, c'est le mois des fiertés, des émissions décapantes sur CUT 89,5 FM en collaboration avec nos médias partenaires. Et bien le bonjour à tous nos amis d'origine haïtienne. Et oui, nous célébrons le mois du patrimoine culturel haïtien et nous tenons à remercier ceux et celles qui nous ont envoyé des beaux petits messages que je vous présenterai si on a le temps avant la fin de l'émission. En Ontario, qui sera le nouveau Premier ministre ou Premier ministre le 2 juin prochain? Eh oui, la campagne électorale est bien entamée avec des promesses et des promesses à gogo pour des francophones. Libéraux et NDP promettent plus de soins de santé en français. Eh oui, ils ont aussi un plan peu spécifique pour le monde de l'éducation. C'est à voir. Et pour sa part, Doug Ford, Premier ministre sortant, a dit, et je cite... Les Franco-Ontariens n'ont jamais reçu autant d'amour que durant les 4 dernières années sous mon gouvernement. Et oui, le meneur dans les sondages a aussi réaffirmé son engagement d'apprendre le français. Déclaration à prendre avec des pincettes, car il avait fait la même promesse 4 ans de cela. Qui verra, verra. Informez-vous, et oui, afin de faire des choix éclairés. Et justement, au NFR+, la plateforme numérique du groupe Média TFO vous invite à participer en grand nombre aux événements via Facebook ou en personne un peu partout à travers la province de l'Ontario. Et il vous reste quoi? Le 26 mai à 19h, débat régional en direct sur Facebook, mais cette fois à Kapuskasing dans le nord de l'Ontario. L'événement sera couvert au public et ouvert au public, je dis bien, au Centre régional de loisirs culturels Inc. au 7 Aurora Avenue. Et le 2 juin, soirée électorale, bien sûr, d'une durée de 2h30 animée par Rudy Chaban et Andréane Baribeau. Les circonscriptions et enjeux francophones seront mis de l'avant. Et enfin, l'histoire se répète, scandale, polémique dans une école du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Eh oui, manifestation d'élèves devant l'école secondaire catholique Béatrice Desloges à Orléans. Contre le code vestimentaire de l'établissement, les réactions de soutien aux élèves continuent d'affluer, y compris sur le terrain politique en pleine campagne électorale provinciale. Et oui, de son côté, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est a présenté ses excuses dans un communiqué samedi dernier. Comment expliquer des faux pas à répétition par le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est? Et puis à ne pas oublier, madame, monsieur, nous accueillerons vers 12h35 Ariane Burtin, directrice du Oui Festival du 31 mai au 12 juin prochain dans la grande région de Toronto. Plus de 50 représentations pour les enfants en bas âge, les enfants d'âge préscolaire et les enfants d'âge scolaire. Un programme dynamique et diversifié. Des premières expériences théâtrales inoubliables pour vos jeunes, eh oui. Il y aura aussi un volet francophone, nous dit-on. Voilà, veuillez consulter toute la programmation sur wefestival.ca. Pour tout de suite, le journal des Amériques et d'Haïti avec RFI.
Culture d'Haïti et d'ailleurs, croisons nos regards dans Causer Kilti, le rendez-vous des cultures en Haïti, tous les dimanches après-midi à 1h33 et 8h33 sur RFI.
Continuer à parler du continent américain avec Justine Fontaine, puisque c'est l'heure du rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Bonjour Justine.
Bonjour Anne, bonjour à tous. Il est 15h10 à Paris, 9h10 à New York et à Port-au-Prince. À la une du journal d'Haïti et des Amériques ce mardi, les États-Unis qui allègent les sanctions contre Cuba et qui s'interrogent après le choc de la tuerie raciste de Buffalo qui a fait 10 morts samedi. On y reviendra dans la revue de presse. La pénurie de lait infantile qui continue aux États-Unis malgré un accord trouvé cette nuit entre le fabricant Abbott et la justice américaine. Ce sera le dossier du jour au Texas. Et puis comme chaque mardi, nous retrouvons Godson Pierre du site internet Alter Press pour parler d'Haïti et des violences des gangs qui continuent de paralyser une partie de la capitale. Enfin, dans une quinzaine de minutes, ce sera le journal des Outre-mer. Avec vous, Tidiane Amarone, nous irons en Martinique, qui accueille à partir de ce mardi le sommet des régions ultra-périphériques de l'Europe.
Et au cœur des débats, la révision des politiques de l'Union européenne pour les RUP, nous dira Bertrand Caruge de Martinique la première.
Merci Tidiane Amarone d'Outre-mer la première. On vous retrouve donc tout à l'heure dans une quinzaine de minutes. Les États-Unis ont levé hier soir une série de sanctions imposées à l'île de Cuba et à son régime communiste. Des mesures qui concernent l'immigration, les transferts d'argent. Cela ne modifie pas l'embargo, assurent les autorités américaines, mais c'est tout de même le signe d'un changement voulu par le président américain Joe Biden, à l'opposé de la politique de son prédécesseur Donald Trump, qui avait imposé une volée de sanctions. Précision de notre correspondante à New York, Loubna Anaki.
C'est un changement de politique qui devrait faciliter le quotidien de milliers de Cubains et de leurs proches installés sur le sol américain. La première mesure annoncée touche à l'immigration. L'administration Biden va remettre en place un programme qui facilitait les regroupements familiaux et qui avait été suspendu il y a plusieurs années. Les demandes de visa devraient également aller plus vite, promet Washington. La deuxième mesure annoncée concerne les transferts d'argent vers Cuba. Depuis la présidence de Donald Trump, ces transferts étaient limités à 1 000 $ par personne, par trimestre. C'est désormais terminé. Washington va par ailleurs augmenter les vols entre les États-Unis et Cuba. La levée de ces restrictions illustre la volonté de Joe Biden de réviser les relations entre les deux pays et la politique américaine envers le régime communiste, même si les sanctions visant les personnalités cubaines, elles, restent bien en place. Si à Cuba, ces annonces ont été saluées comme, je cite, un petit pas dans la bonne direction, elles risquent de faire beaucoup de bruit côté américain, où le sujet Cuba reste un sujet brûlant. Certains Les républicains ont déjà fait savoir qu'ils s'opposent vivement à la levée des restrictions. Loubna Anaki, New York, RFI.
Et la réaction cette nuit des autorités cubaines, l'allègement des sanctions américaines est un petit pas dans la bonne direction, selon le ministre des Affaires étrangères Bruno Rodriguez. Les États-Unis toujours sous le choc après la tuerie raciste de Buffalo, c'était ce samedi, on l'entendait dans le journal. Ce mardi, le président Joe Biden se rend dans cette ville de l'État de New York pour rendre hommage aux 10 Afro-Américains tués par un jeune homme de seulement 18 ans. Une fusillade meurtrière qui a provoqué une onde de choc dans le pays. Peyton Gendron, le tireur présumé, arrêté par la police, s'est radicalisé en ligne. Il est devenu un adepte du suprémacisme blanc et de la théorie du grand remplacement. Des idéologies d'extrême droite qui font leur chemin aux États-Unis. Explication avec l'historien François Durper.
Ce qui est très intéressant, malheureusement, c'est évidemment que la base idéologique des racistes américains est en train d'évoluer. Il y a une trentaine d'années, le racisme américain, ça consistait à dire les blancs sont supérieurs aux noirs, les blancs sont supérieurs aux juifs, les blancs sont supérieurs à toutes les, entre guillemets, races de la planète. Aujourd'hui, on passe du blanc supérieur au blanc menacé. Ce que dit le tueur de Buffalo, c'est l'extinction de la race blanche, entre guillemets. C'est le fait que les blancs sont désormais menacés par les autres races du monde, entre guillemets. Il parle, par exemple, des noirs ou des hispaniques comme des envahisseurs. Et il imagine une Amérique totalement dépassée par les autres communautés.
L'historien spécialiste des États-Unis, François Durper. Bonjour Harim Lippold.
Bonjour Justine, bonjour à tous.
Vous avez lu la presse des Amériques ce mardi et les médias états-uniens tentent encore aujourd'hui de répondre aux questions soulevées par cette fusillade raciste de Buffalo.
Oui, exactement. Le New York Times, par exemple, consacre son éditorial à cette tuerie de masse qui, selon le journal, n'était pas un acte isolé. Le quotidien souligne que la théorie du grand remplacement dont se revendique, comme vous l'avez dit, le tueur présumé est effectivement partagé par plus de la moitié des sympathisants républicains. Cette théorie du remplacement est une attaque contre la démocratie américaine, écrit le New York Times, soulignant que de plus en plus de voix publiques aussi la défendent, à l'instar du célèbre animateur de Fox News, Tucker Carlson. Et malheureusement, eh bien, il faut souligner aussi, poursuit le New York Times, qu'il est toujours très facile pour des terroristes de passer à l'acte. L'auteur présumé, qui d'après le Washington Post a planifié son attaque depuis des mois, a sans aucun problème pu se procurer un fusil semi-automatique de type Bushmaster XM15.
À Rime, la violence liée aux armes à feu, c'était le sujet principal du documentaire de Michael Moore, Bowling for Columbine. Le film est sorti il y a 20 ans et il est toujours d'actualité d'après la presse canadienne.
It was the morning of April 20th, 1999.
Oui, on se souvient de la fameuse introduction du film dont le point de départ est le massacre de 12 élèves et d'un enseignant à l'école Columbine à Littleton, c'est dans le Colorado. C'était un jour comme les autres, raconte Michael Moore, le réalisateur. Le laitier livra le lait, les gens se rendirent au travail et le président américain bombarda un autre pays asiatique dont il ne pouvait pas prononcer le nom.
And out in a little town in Colorado. Two boys went bowling at 6 in the morning.
Le journal canadien La Presse rappelle que Michael Moore s'est attiré les foudres de la droite conservatrice qui l'accusait d'être un traître à la nation. Il n'empêche, Justine, 20 ans après, bien, ce film n'a rien perdu de sa force de frappe, estime La Presse. La Presse, journal canadien, bien au contraire, revoit aujourd'hui ces miliciens conspirationnistes armés jusqu'aux dents dans le contexte des théories du complot qui ont marqué la pandémie du Covid. Eh bien, cela donne froid dans le dos.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
Comme chaque mardi, nous avons rendez-vous avec la rédaction du journal en ligne Alter Press pour faire le point sur l'actualité haïtienne. Bonjour Godson Pierre.
Bonjour Justine.
À la une d'Alter Press, les violences dans le quartier de la Plaine du cul-de-sac. Les habitants sont toujours sous le choc après le massacre de début mai.
Ah oui, le traumatisme demeure évidemment. Il est constamment alimenté par de fortes détonations qui persistent. Plusieurs écoles ont malgré tout recommencé à fonctionner, mais timidement, de nombreux riverains hésitent à s'aventurer dans les rues. Et cela s'en ressent au niveau des activités quotidiennes très réduites après la violence inouïe qui a caractérisé les affrontements entre gangs rivaux, faisant 148 morts au sein de la population civile. Les chefs de gangs ne cessent de proférer des menaces à travers les réseaux sociaux.
Et les bandits veulent maintenant progresser vers l'est de la capitale.
On observe en effet que la situation sécuritaire s'est gravement détériorée dans les localités liant la plaine du cul-de-sac aux communes de Tabar et Pétionville, périphérie est. Parmi les zones touchées figurent quelques quartiers où une base de gang tente à prendre racine, non loin de l'académie de police et de l'immeuble de l'ambassade américaine à Tabar. Les gangs font tout pour étendre leurs tentacules vers les localités montagneuses de l'est de la capitale où les incidents violents se sont produits ces derniers jours.
Et de son côté, la police marque quelques points dans la lutte contre les bandes criminelles et tente de rassurer la population.
Oh oui, les médias sociaux de la police font état quotidiennement d'arrestations de présumés bandits, de confiscations d'armes et de la mort de personnes armées, supposément au cours d'échanges de tirs avec les forces de l'ordre. Des patrouilles préventives et des opérations ciblées se poursuivent, assure la police. Les secteurs politiques, économiques et sociaux s'impatientent de voir des résultats concrets en termes de diminution de la sécurité.
Autre sujet à lire également sur Alter Press, Godson, l'ancien président haïtien Michel Martelly n'est pas le bienvenu à Miami.
Une dizaine d'organisations et de personnalités de la communauté haïtienne de Miami demandent en effet par lettre au maire Francis Suarez de déclarer sans équivoque l'ancien président persona non grata. Le chanteur et ex-chef d'État prévoit une tournée dans cette ville à partir de demain jusqu'au 21 mai. Et comme les Haïtiens de Montréal et de New York il y a quelques années, et bien ceux de Miami fustigent la grivoiserie de Martelly et évoquent des soupçons de crimes qui pèsent sur lui en Haïti.
Merci Godson Pierre d'Alter Press. On vous retrouve mardi prochain.
À bientôt.
Le journal de l'Outre-mer.
Et bonjour Tiziana Maron.
Bonjour Justine.
Au sommaire de ce journal, les Outre-mer avec la première, la Martinique à l'heure européenne. Dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, l'île des Antilles françaises accueille pendant 3 jours le sommet des régions ultra-périphériques de l'Europe, Tidiane.
Oui, c'est la Martinique qui assure la présidence de la conférence des RUP, dont tous les départements français d'outre-mer sont membres. Pendant 3 jours, le département accueille les représentants des États membres de l'Europe et les présidents des régions ultra-périphériques. Les détails avec Bertrand Caruge de Martinique à la première.
Un événement qui sera l'occasion d'échanger en détail sur la nouvelle stratégie de la Commission européenne pour les régions ultra-périphériques et sur une meilleure prise en compte des problématiques au sein des nombreuses législations européennes dans des domaines tels que l'agriculture, l'économie bleue, l'emploi ou encore, et c'est important, la cohésion sociale. Porter la voix des peuples et défendre les spécificités des RUP, ce seront là les défis de ces 17, 18 et 19 mai, selon les protagonistes. Le programme débute ce mardi avec les échanges internes entre les différents présidents des régions ultra-périphériques de l'Union européenne et se poursuivra notamment avec des visites de terrain et une conférence plénière ce mercredi après-midi au Palais des Congrès de Madiana.
Autre réunion qui se tient en ce moment, cette fois en Guadeloupe, la 17e édition de la rencontre Géorisque, organisée par l'Université des Antilles, une session de restitution des travaux de recherche réalisés à la suite de la saison cyclonique 2017, saison dévastatrice avec plus de 10 ouragans, dont Irma et Maria. Une donnée se confirme, l'augmentation de fréquence des phénomènes les plus extrêmes. Raphaël Cessé, ingénieur au laboratoire de l'Université des Antilles, au micro de Sébastien Gilles de Guadeloupe, la première.
On a vu des rafales bien au-delà de 380 km/h, voire 400 km/h. L'idée est de pouvoir quantifier ces accélérations du vent pour pouvoir, à terme, améliorer et adapter les normes de construction dans ces zones à risque. Et c'est ce que nous avons pu identifier à 30 mètres de résolution, donc c'est très novateur.
Ce mardi 17 mai, c'est la journée internationale contre l'homophobie. Caroline Musquet, autrice guadeloupéenne, vient de sortir un livre, Être homosexuel aux Antilles, paru chez Caraïbes Éditions. L'autrice a recueilli le témoignage de 15 personnes homosexuelles confrontées aux préjugés encore tenaces aux Antilles et en Guyane. Retour à Martinique pour terminer. L'Église catholique entend participer activement aux commémorations de l'abolition de l'esclavage qui seront célébrés le 22 mai prochain à Lille. Un débat est organisé à cette occasion à la cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France sur le traumatisme suscité par l'esclavage. Le curé Pierre Anderson au micro d'Audrey Govendin de Martinique à la première.
Qu'est-ce que nous voulons en Martinique, sinon qu'il y ait un peuple unifié, un peuple plus réconcilié avec son passé, le passé de la traite. Et puis on veut fixer la mémoire parce que entre la mémoire et l'histoire, il y a quelques difficultés, quelques problématiques. Nous ne devons pas nous replier sur nous-mêmes. Ce n'est pas possible. Le peuple martiniquais ne peut pas se replier sur lui-même. Et puis se libérer aussi de la transmission des traumatismes. Puisque nous, martiniquais, nous avons subi des traumatismes. Donc il faut se libérer par la parole, il faut se libérer par le pardon.
Et c'est le mot de la fin de cette édition. Bonne journée.
Merci Tiziane Amaron d'Outre-mer la première. C'est ainsi que se termine ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques. À la réalisation aujourd'hui, Claude Battista et Hélène Dutruc-Rosset. Merci.
Pour nous écrire, RFI, 80 rue Camille Desmoulins, 92 130, Issy-les-Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr.
France 24 est la première présente. Découvrez votre nouveau magazine d'information consacré aux territoires et départements d'outre-mer. France 24 et la première s'associe pour vous présenter des reportages inédits au cœur de la population et des sociétés ultramarines. Décryptage de toute l'actualité marquante de la semaine, analyse et partage de connaissances. Partez à la découverte des richesses des territoires d'outre-mer sur France 24 et France24.com.
On se caresse, on se dévore, on s'aime trop, on s'aime encore. Un mot de plus, un mot de trop, et deux amants sur le carreau. Une année impossible, que cette année-là ce virus invisible entre toi et moi. Il y a ceux qui rêvaient de dictature militaire. Ces connards amnésiques ont foutu en colère. Juste toi et moi.
Des rouleaux passés mêlant.
On se dévore, on s'aimait trop, on s'aime encore. Plus de 20 ans et des alarmes, t'as toujours pas baissé les armes. Un vent solaire qui déchire le ciel noir, dans la foule anonyme arrive en flux tendu. Les gueules de prophètes jusqu'alors inconnu, brille ton cerveau, sont tes pires cauchemars. Juste toi et moi,
des rouleaux passés mêlant.
Toi et moi, c'est pas toujours facile, toi et moi. Toujours indivisible, toi et moi. Si le sensible vit encore, on se caresse, on se dévore. Une année impossible, cette année-là, ce virus invisible entre toi et moi. On se caresse, on se dévore, on s'aime trop. On s'aime encore. Juste toi et moi.
Et vous le passez mieux.
Juste toi et moi.
Et vous le passez mieux.
Student and listener supported community radio. CIUT 89.5 FM, celebrating 35 years as the sound of your city.
Et oui, Ciné Franco, 25 ans, et ça se fête tout au long de l'année, en ligne ou en salle. Restez branchés sur CUT 89,5 FM pour découvrir les rendez-vous et les films de Ciné Franco. Allez sur le site de cinéfranco.com et découvrez la diversité des cultures francophones. Ciné Franco, le plus important festival international de films francophones à Toronto depuis 1997. Soyez-y. Bonne fête à Ciné Franco. Ciao, ciao, ciao.
Faites-le dans la cuisine, dans le jardin, et même sur le balcon. Inscrivez-vous pour accéder à des outils qui simplifient la façon de voter. Faites-le partout et en tout temps. Inscrivez-vous sur la liste des électeurs dès aujourd'hui.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec Popourri Show et RFI. Des entretiens musclés, des rendez-vous littéraires et culturels. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? 50 ans après sa création, comment se porte l'organisation de la francophonie internationale? Ici Eric Adair, je vous invite à Popourri Show, le magazine de la francophonie. L'émission phare sur CUT-FM, chaque dimanche de 11h à 13h, en partenariat avec le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne de la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto, le CREFO.
le département d'études langagières, campus de Mississauga, Université de Toronto, la chaire de recherche du Canada en études des minorités, l'Université de Waterloo, les éditions Prise de parole, EducNation Consulting Inc., Noir et Psy, Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24. Écoutez, participez, devenez chroniqueur ou bénévole. Joignez-vous à l'équipe de Popourri Show en nous envoyant un message à popourri@cut.fm ou visitez notre site web popourrishow.com. Popourri Show, plus de 34 ans déjà sur CUT FM, la radio comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette with butter or marmalade?
Découvrez Radio Player France. Radio Player, c'est une nouvelle façon de penser, de consommer et d'aimer la radio. C'est une application qui réunit le meilleur des radios françaises, des web radios et des podcasts. C'est un projet commun réunissant les six principaux groupes de radios françaises. Altice Média, Lagardère News, les Indes Radio, les radios du groupe M6, Energy Group et Radio France. Mais c'est surtout une ouverture pour tous, avec un contenu énorme, complet et entièrement gratuit. Avec des offres localisées et un modèle prédictif basé sur l'écoute des auditeurs. C'est pour tous les usages, partout et à tout moment. C'est sur tous les supports, smartphone, ordinateur, enceintes connectées et assistants vocaux, smart TV et voiture. Avec en plus une qualité de son inégalée. Radio Player France, l'appli de toutes les radios, gratuite et accessible à tous.
CIUT-FM, la première radio de Toronto, élue par le Now Magazine en 2021. Toute l'équipe de la radio vous remercie de votre fidélité.
En 2022, Popourri Show et CUTFM fêtent leur 35e anniversaire. Popourri Show, la seule émission en langue française, a renouvelé sa convention de partenariat avec Radio France Internationale. 2022 s'annonce une année riche en événements et en surprises. Eh oui, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que Sophie France Solidarité des Femmes et Familles Interconnectées Francophones du Niagara, un organisme communautaire à but non lucratif, planifie, développe, organise et réalise des projets qui répondent aux besoins réels de la communauté immigrante francophone du Niagara. Sophie France est aussi un festival annuel haut en couleur avec Festival Ben, un salon du livre, des ateliers, des projets ambitieux et novateurs. Sophie France, 15 ans déjà, ça se fête! De la culture, de l'art et du patrimoine pour, par et avec les immigrants et les jeunes francophones du Niagara et de Welland. Découvrez les projets de Sophie Franc en cliquant sur sophiefranc.org ou visitez notre site web popourrishow.com. Où que vous soyez, si vous songez un jour vous installer dans la région du Niagara, Sophie Franc vous accompagnera dans votre processus d'intégration en vous offrant des services ciblés dans le domaine social, économique, éducatif et culturel. Pour une intégration réussie, une seule adresse, sophiefranc.org. Sophie Franc est un organisme qui a déjà fait ses preuves. Ensemble, faisons le changement. Popourri Show, 35 ans déjà, fier partenaire de Sophie Franc.
Et je pense aussi que les jeunes, les familles en ont marre de ces rencontres virtuelles. Ils préfèrent passer des événements de ce genre en présentiel.
Ben oui, parce que l'être humain, il n'est pas virtuel, hein. L'être humain, on est des espèces d'interdépendance, de bonne interdépendance. Donc, le contact humain, il est très thérapeutique. On veut plus continuer à à garder nos enfants de façon virtuelle. Il faut qu'ils se rencontrent. Il faut même qu'ils partagent certains germes et tout ça, et que leur système immunitaire puisse se renforcer, en tout cas.
Alors, cette année, Sophie Franc a la chance de vous avoir comme animatrice pour son camp d'été multi-art, 18 oui. juillet au 29 juillet. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes à Toronto depuis 1995 et vous êtes une artiste multidisciplinaire, femme très engagée sur le plan social, culturel, fondatrice de l'une des plus importantes troupes de spectacles canado-africaines, animatrice culturelle sur les ondes de Radio-Canada, conteuse, chanteuse, pédagogue. Certains vous présentent même comme étant le soleil de la Côte d'Ivoire en Ontario. Et vous promettez aux parents une bouffée d'oxygène pour les enfants de 6 à 13 ans. Quelles sont les activités que nos jeunes pourront découvrir lors de ces camps d'été?
D'abord, le camp d'été, évidemment, comme vous venez de le dire, c'est une bouffée d'oxygène. Après 2 ans de pandémie, on s'est dit, d'abord, on accueille nos jeunes pour qu'ils viennent respirer, qu'ils puissent créer. Les parents amènent leurs enfants à un camp assez spécial.
Et il y a aussi nous qui luttons pour exprimer nos pensées, nous qui luttons pour chercher le respect des autres, nous qui ne fléchissons pas devant les remarques des autres, les jugements que l'on nous porte, nous qui nous sommes défendus contre les abus physiques ou moraux, nous qui avons surmonté les discriminations sexuelles, hommes, femmes, hétéros ou homosexuels, nous qui avons vaincu un handicap ou une maladie, nous qui élevons nos enfants, parfois seuls, nous qui puisons en nous le courage, la force et la volonté pour changer, avancer et s'élever. Nous qui surmontons tous les jours des inégalités sociales. Nous qui devons lutter pour nourrir notre famille. Aujourd'hui, nous sommes 50 héros à être sortis de l'ombre. Nous sommes debout devant vous pour défendre les droits humains, la liberté d'expression, l'égalité des genres, pour combattre l'injustice et la violence. Nous voulons faire évoluer les mentalités et les comportements pour une société juste. Demain, soyons plus de 50 000 héros à rejoindre le mouvement et plus nombreux à Rise and Shine.
Le livre du jour. Chaque semaine, notre partenaire, la maison d'édition Prise de Parole, nous présente l'actualité et les nouveautés littéraires avec pour seul mot d'ordre, le plaisir. Découvrez les écrivains de la diversité francophone de l'Ontario et du Canada. Chaque dimanche, Popourri Show et priseparole.ca nous donnent envie de déguster des histoires, dévorer des pages, savourer les mots enfin gourmets de la littérature. Retrouvez sans attendre toutes les entrevues des autrices et des auteurs sur popourrichaud.com ou découvrez tout simplement les nouveautés littéraires du moment sur priseparole.ca. Et oui, les éditions Prise de Parole est fière de présenter les finalistes de l'édition 2022 du prix littéraire Trillium, le prix le plus prestigieux décerné par la province de l'Ontario aux auteurs ontariens de langue française ou anglaise. Cette année marque le 35e anniversaire de ce prix qui met en lumière le talent des écrivaines et écrivains de l'Ontario et célèbre l'excellence de la diversité de leurs œuvres. 16 titres reflétant un vaste éventail de genres et composés en français ou en anglais ont été retenus en sélection finale du prix littéraire Trillium cette année. Et oui, ces ouvrages qui repoussent les limites de la créativité et de l'excellence englobent des histoires d'amour internationales et des poèmes captivants pour le plus grand plaisir des amoureux de la littérature. Le montant du prix décerné à chacun des auteurs primés est de 20 000 $. Les éditeurs reçoivent 2 500 $ pour le marketing et la promotion des ouvrages. Vous retrouverez les noms de tous les finalistes sur notre site web popourrichaud.com et nos sincères remerciements à notre partenaire, les éditions Prise de Parole. Dans un instant, oui, Festival des Arts et de la Culture pour la Petite Enfance du 31 mai au 12 juin. Je vous invite à consulter la programmation en ligne sur ouifestival.ca.
Originaire de Strasbourg et avec une formation en gestion de projet pour diverses entreprises numériques, elle s'est établie à Toronto depuis 2018 en tant que régisseuse, chef de projet et administratrice pour diverses organisations et compagnies artistiques, dont Nova Dance, Corpus et ARC Theatre. Elle est au sein de l'équipe de 8 festivals depuis 2018 dans un rôle qui s'appuie sur son expérience et son engagement envers les arts de la scène. Sans plus tarder, madame, monsieur, j'ai le plaisir de vous présenter Ariane Burtin, directrice du Oui Festival.
Allô?
Oui, bonjour, je pourrais parler à Ariane Burtin, s'il vous plaît.
Et moi?
Bonjour, ici Ricader de CUTFM Toronto. Ravi de vous accueillir pour la première fois à l'antenne dans le cadre du Oui Festival. Le seul festival d'art contemporain de Toronto dédié à la petite enfance, présenté en direct et en personne du 31 mai au 12 juin dans la région du Grand Toronto. Un programme entièrement francophone a été ficelé pour les enfants francophones et francophiles et vous êtes à votre 6e édition. Pour les auditeurs qui ne sont pas très familiers avec le Oui Festival, comment est né ce projet et quel est le mandat, la mission de Oui Festival?
Oui, alors effectivement, on est de retour, on est ravis d'être de retour cette année pour notre 6e édition. Le Oui Festival est né d'un rêve, d'un projet de notre directrice artistique Linda Hill, qui travaillait dans un théâtre dédié aux enfants et qui a voulu créer ce festival dédié à la jeune enfance. Et donc quand on parle de jeune enfance, c'est de 0 à 6 ans. En 2014, et donc la première édition était en 2014 sur un rendez-vous qui était tous les 2 ans, et on est passé à un rendez-vous annuel depuis 2019.
Eh ben, alors je vois que vous avez toute une belle équipe à vos côtés, un comité aviseur, des fiduciaires, vous avez comme partenaire cette année le Théâtre français de Toronto, que nous connaissons très bien. Quel est votre lien avec les conseils scolaires et quel est le rôle du Théâtre français dans votre festival?
Donc oui, en effet, le Théâtre français de Toronto est encore une fois cette année notre partenaire du programme francophone. On n'est pas forcément un festival qui est francophone. On a un volet qui est francophone. De manière générale, les spectacles qu'on présente dépassent un petit peu la barrière de la langue puisqu'on est justement sur la jeune enfance où on a des spectacles qui sont très visuels, la majorité sont sans parole. En revanche, chaque année, on souhaite avoir ce programme francophone où on est content de pouvoir inviter des artistes et des compagnies francophones qui viennent du Québec ou de l'Ontario. Et ces spectacles sont présentés et en anglais et en français, et présentés également auprès des écoles et auprès des familles durant le week-end.
Alors, notre invité, encore une fois, madame, monsieur, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Ariane Burtin, originaire de Strasbourg. C'est tout un changement, n'est-ce pas, pour vous? Alors, vous êtes une personne avec une riche expérience envers les arts de la scène, actuellement directrice du Oui Festival. Je rappelle aux gens les dates à ne pas oublier, du 31 mai au 12 juin, wifestival.ca et ou encore popourishow.com. Vous retrouverez toute la belle programmation pour vos jeunes de 0 à 6 ans. À 0 année, est-ce qu'on peut comprendre quelque chose?
Comprendre, peut-être, la notion de comprendre est peut-être pas celle qu'on imagine.
Oui.
Ressentir, absorber des émotions, oui.
Oui. Alors, je rappelle, il y aura des spectacles poétiques, en mouvement, conte, musique, danse et marionnettes en anglais, en français, sans parole. Et prenant connaissance justement de votre programmation, j'ai l'impression de lire la programmation du Cirque du Soleil. Vous avez des événements, des spectacles haut en couleur avec des compagnies qui viennent du monde entier. Ça doit être fou de monter une programmation pareille. Ça demande toute une logistique. Justement, parlez-moi un peu de ces compagnies invitées de cette année.
Oui, alors Alors cette année, on est sur une dizaine de compagnies qui sont invitées. Cette année, je pense que vous le comprendrez bien, on est plus sur une programmation canadienne. On a réduit le périmètre sur les compagnies internationales. Néanmoins, nous invitons une compagnie qui vient d'Irlande cette année. L'artiste de renom Anna Noël, qui est justement spécialisée dans les spectacles pour les tout petits, pour les bébés. Nous avons également quelques compagnies qui viennent du Québec, que ce soit de Québec ou de Montréal, avec les spectacles Le Carré de Sable, Bois, Lettres de la Ville, Peinture. Nous avons également des nouvelles œuvres par des artistes locaux ontariens, avec Loua Cheyenne qui vient nous présenter pour la première fois Yasama et la Calabasse au Cori, et également une compagnie qui vient de Vancouver.
Oui. Et alors, après plus de 2 ans de confinement, chose qu'on n'est pas prêt à oublier, n'est-ce pas, les spectateurs sont de retour dans les salles de spectacle, de cinéma en Ontario, au Québec. Et j'ai quelques rares parents qui se posent toujours la question suivante. Est-il sécuritaire pour mon enfant de participer aux événements de Oui Festival?
Alors oui. La réponse est oui. Alors, il faut savoir que, étant donné qu'on présente des spectacles pour des jeunes enfants, il faut savoir également que l'audience, on est dans un cadre très intime. On n'est pas sur des spectacles, justement, du Cirque du Soleil, on est sur des petites audiences de 100 personnes. Pour tout ce qui concerne l'aspect sécuritaire, vous pouvez trouver sur notre site internet toute la page qui est liée à notre politique pour la santé et la sécurité relative au Covid.
Oui. Vous savez que nous avons un vaste territoire hein, qu'on couvre et même sur internet, on nous écoute en Australie, à l'île Maurice, en France bien sûr et au Québec. Est-ce que les parents, les adultes amoureux de l'art et des spectacles qui aimeraient bien peut-être faire une petite balade en Ontario, à Toronto, est-ce que les adultes sans enfants sont les bienvenus?
Tout le monde est le bienvenu au Oui Festival.
Oui. Y a-t-il un coût?
Oui. Nous sommes sur un tarif où la personne décide le tarif qu'elle souhaite pour qu'on puisse offrir l'art, quel que soit votre porte-monnaie.
Oui, c'est parfait ça. Alors, est-ce que j'ai vu sur votre site web, si je ne m'abuse, que de temps en temps, vous avez aussi des programmes spéciaux durant l'année dans les écoles?
Oui, on crée des programmes spécifiques. Il faut savoir néanmoins que le cœur de notre activité est pour l'organisation de ce festival. Et ces programmes scolaires se développent aussi durant ces 2 semaines. Par exemple, pour cette année-là, on invite les écoles à venir voir des spectacles. On a des ateliers spécifiques qui sont dédiés à certaines écoles qui vont se passer la deuxième semaine, en début de semaine, au Factory Theatre, où une classe est invitée pour participer à un spectacle et à un échange avec un de nos artistes. Et on a également tout le programme qui sera en ligne, notre programme qui s'appelle Spark Art, où les écoles sont invitées à travailler autour d'une thématique et travailler autour d'un spectacle. Donc ils vont pouvoir visionner un spectacle et ensuite on développe avec les enseignants un programme spécifique qui est à faire avec leurs élèves à l'école pendant toute une semaine.
Vous faites des choses tellement merveilleuses. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi on ne vous a pas rencontré bien avant. Et ici, je dois remercier votre ambassadrice et qui vous aide dans les médias. C'est bien sûr notre amie de toujours, José Durand-Loup. C'est grâce à elle que nous avons découvert Oui Festival. Alors, vous faites un travail magnifique. Je vois ici un spectacle que j'aimerais bien y assister personnellement. Mer Océane, le chemin qui marche de Bénédicte Guillon.
Guillaume Verne, du Québec, au Factory Studio Theatre, c'est au 125 rue Bathurst, spécialisé dans les arts de la marionnette et de la parole, les créations du chemin qui marche, s'inspire de la nature, des contes et de la littérature, et ce spectacle est au programme du 31 mai au 1er juin. Et si je comprends bien, vos spectacles se tiendront dans différents endroits en ville. Parlez-moi rapidement des autres lieux, des adresses où les auditeurs pourront assister au Oui Festival.
Oui, nous serons ravis de vous accueillir, quel que soit le lieu. Cette année, nous sommes dans quatre quartiers différents. Nous serons à Regent Park, au Aki Studio. On sera au Factory Theatre, comme vous l'avez dit, du côté de Bathurst et Adelaide. On sera à l'Alliance Française. Et on est également du côté de Etobicoke à Assembly Hall. Il faut savoir également que nous avons des partenaires dans la région d'Ontario et deux de nos spectacles vont également aller à Aurora et à Hamilton.
Mais ben, je ne peux m'empêcher de saluer rapidement au passage à Lua Chaen, artiste de renom, chorégraphe, qui est déjà passé à notre antenne à plusieurs reprises et elle nous présente Asama et la calebasse Okori. C'est l'histoire d'une jeune fille qui, avec l'aide d'un vieux baobab, sauve son village de la sécheresse et délivre une leçon puissante sur l'importance de respecter et d'honorer la terre-mère. Ça tombe bien hein, avec l'environnement et tout ce qu'on connaît, n'est-ce pas? Alors, l'artiste de renom Lua Chaen mêle danse et musique à un récit captivant dans un spectacle interactif spécialement conçu pour les jeunes enfants. Spectacle que vous pourrez voir, madame, monsieur, du 31 mai au 8 juin au Assembly Hall and Native Earths Aki Studio. Vous retrouverez tous les détails sur wefestival.ca/shows. We Festival of Arts and Culture for Early Years. We Festival des Arts et de la Culture pour la Petite Enfance du 31 mai au 12 juin. Je vous invite à consulter la programmation édition 2022 sur wefestival.ca. Ariane Butin, directrice du We Festival, merci infiniment d'avoir participé à notre émission. N'hésitez pas à nous contacter pour toute mise à jour et d'autres événements à venir. On aimerait bien ça, avoir un partenariat à long terme avec vous, parce que vous faites des choses qui cadrent avec la mission de notre émission. Vous savez, nous sommes là depuis 35 ans, hein. Donc nous sommes témoins de l'évolution de la francophonie, mais aussi dans le domaine des arts, du cinéma et des organismes communautaires. Donc, bravo à vous et toute l'équipe.
Eh bien, merci beaucoup à vous, merci de nous avoir accueillis. Et puis, on sera ravis de vous rencontrer au Oui Festival et avec votre famille et tous vos enfants.
Alors, je vous souhaite bon succès à vous et votre équipe. Je vous souhaite un bel été et que la force soit avec vous, Ariane Burtin.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Eh oui, nous venons d'entendre Asama et la calebasse Okori. Eh oui, beau spectacle, hein? Une belle chanson interprétée par Lua Chaen, artiste qui est passé à l'émission à quelques reprises, artiste de renom qui mêle danse et musique. Un récit captivant, un spectacle interactif spécialement conçu pour les jeunes enfants. Vous retrouverez tous les détails de la programmation de We Festival sur wefestival.ca ou sur notre site popourishow.com. Et à ne pas oublier la prochaine conférence de la Société d'Histoire de Toronto ayant pour thème l'aventure des Acadiens aux îles Malouines en compagnie de Bougainville, prévue pour le 25 mai à 19h à l'Alliance Française de Toronto, 24 chemin Spadina. C'est le métro Spadina et le conférencier sera Christian Bode, membre de la Société d'Histoire de Toronto. Un autre événement qui nous intéresse, toujours présenté par la Société d'Histoire de Toronto,
Toronto, portes ouvertes, 28-29 mai prochain. Un week-end par année, des dizaines de sites ouvrent leurs portes aux portes ouvertes Toronto. Une célébration reconnue comme l'un des événements les plus importants sur le plan culturel de Toronto. Et la Société d'histoire de Toronto vous invite à venir découvrir le site de Fort Rouillé, adjacent au site de la cabine Scudding et le terrain de CNI, parc des expositions. La Société d'histoire vous y accueillera de 10h à 16h, samedi 28 mai et le dimanche 29 mai. En plus de vous raconter l'histoire des forts français de Toronto au 18e siècle, les bénévoles de la Société d'histoire de Toronto vous ont préparé des activités diverses pour enfants, adultes, jeux, chansons, musique et artisanat, etc. Tous les détails sur le site de la Société d'histoire de Toronto, sht.ca ou encore popourichaud.com pour tout savoir. Et enfin, Ciné Franco offre deux paires de billets aux auditeurs, auditrices de Popourichaud. Et oui, avec le film La Fracture de Catherine Corsini, co-présenté par, avec le festival Inside Out, le lundi 30 mai à 19h au TIFF Bell Lightbox de Toronto, rue King West. Les détails sur notre site popourichaud.com. C'est une façon aussi de commencer les célébrations du mois des fiertés, madame, monsieur. Toute une programmation spéciale sur Popourichaud, CIUT, FM, bien sûr, à ne pas manquer. Alors, pour ceux et celles intéressés à aller voir ce film, et surtout, surtout, si vous avez déjà fait une contribution à Popourichaud la semaine dernière, alors envoyez-nous un message immédiatement à popourri@cut.fm, popourri@cut.fm. Et bien sûr, vous retrouverez toutes les informations de ce film, La Fracture, de Catherine Corsini, qui dépeint deux mondes qui se côtoient, mais qui ne savent pas se parler. À travers cette instantanée de vie, Catherine Corsini décrit une triple fracture amoureuse, sociale et corporelle sur fond de crise des Gilets jaunes en France. Et oui, nos sincères remerciements à Marceline, fondatrice de Ciné Franco, et sa belle équipe. Le temps file, le temps file. Il y a tellement de sujets que j'aimerais vous parler. Entre autres, le coup d'envoi de la 75e édition du Festival de Cannes. Le président de l'Ukraine, Zelensky, était en direct de Kiev. Et il en a profité pour sensibiliser les nombreux artistes, comédiens, producteurs présents. Et oui, inscrivez-vous immédiatement à nos infolettres popourri@cut.fm pour suivre les événements du Festival de Cannes d'ici au 28 mai prochain. Eh oui, malheureusement, le temps file. Il y a tellement de choses que j'aimerais vous parler. Beaucoup de réactions suite à la tuerie de Buffalo dans l'État de New York. Vives inquiétudes chez beaucoup de Noirs en Ontario, au Canada, aussi au Québec. De vives inquiétudes au sujet de la réforme de la charte de la langue française, quelque décrite dans le projet de loi 96, qualifié par certains de discriminatoire et de totalitaire. Plusieurs entreprises menacent de quitter la belle province. On en parle très bientôt. Allez, voici, c'est tout pour aujourd'hui. Oui, mille merci à Ariane Burtin, directrice du Oui Festival. Merci à José Durand, le consultant expert de conseil, membre de la radio qui a facilité cet entretien. DJ Devera, mille merci. Emmanuel Kerrad et ses invités sur France Inter. Et oui, Ciné Franco et le Festival Inside Out. Deux paires de billets vous attendent, madame, monsieur. Bon dimanche, bonne semaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Bon appétit si vous êtes à table. À notre façon de célébrer le mois du patrimoine culturel haïtien avec l'artiste haïtien Wesley, qui vit entre Haïti et Montréal. Il dit, et je cite, « Je suis un homme à deux cœurs, l'un en Haïti, l'autre ici au Canada. » Ciao, ciao, ciao.
Lolé, 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 laï. Lolé, 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 laï. Côté tout famille, on s'en vient grandir. Tout politicien, on quatre écoles. Tout escamote, pas bien, vint plaisir. Y'ont des pays, pas de chambre, vint construire. En ballant, nous sommes tout le monde, pas grandir. Côté jeune garçon, on apprend pas tirer. Papa, mon Dieu, bébé, il n'a pas béni. Bébé, laisse-moi, bébé. 21e siècle, nous tout
après tant de les massifs le gain pas qu'à tout En bas de cabaye, si mal est ponché, n'est pas la bouteille, c'est sous tes liens. Je veux pas dire que mes parfums qui m'installent pour t'y liberté, pas de péguer. Qu'on est petit comme nos petits négalés, balloté pour t'y apporter moi le papégué. Tu oublies que l'école, yo même après ton yo, par contre, ils sont yo, bras, je suis la vie. C'est que nous tout après t'en rêver, pas souffler, n'est pas gâteau.